VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Ouagadougou, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. En RDC, fin de la rébellion de Kamuina-Nsapu dans le Kasaï, région du centre du pays. Le successeur de Jean-Pierre Mpandi, le chef coutumier défunt dont les partisans s'affrontent avec les forces de sécurité congolaises, a été officiellement nommé par le gouvernement. L'arrêté qui désigne Jacques Kabeyantumba, chef coutumier de Badjila Kasanga, pour succéder à Jean-Pierre Mpandi, est signé, a déclaré le gouvernement. Cette annonce intervient après la remise du corps du chef coutumier défunt à sa famille samedi dernier. Geste réclamé par les partisans de Kamuina-Nsapu, de son vrai nom Jean-Pierre Mpandi. Le lendemain, un porte-parole de la famille régnante de Badjila Kasanga a proclamé solennellement à la télévision d'État la fin de la guerre contre le gouvernement. Ce mardi, dans une déclaration également à la télévision d'État, le ministre congolais de l'Intérieur, Ramazani Shadary, a estimé que la restitution du corps du chef coutumier, son enterrement conformément au rite de Badjila Kasanga et la désignation de successeur à la tête de cette communauté, la communauté de Kamuina-Nsapu, marquait la fin du conflit qui a fait des centaines de morts. RDC toujours, retour de Félix Tshisekedi à Kinshasa hier lundi après une mini-tournée à l'étranger. Le président du Rassemblement de l'opposition a été escorté de l'aéroport de Ndjili jusqu'au siège du parti du DPS à Limété. Il a promis dans un discours que le Rassemblement se battra jusqu'au bout pour la tenue des élections dans le pays. Félix Tshisekedi a salué par ailleurs les bons offices de la MONUSCO, la mission onusienne sur place, pour l'application de l'accord du 31 décembre dernier. On l'écoute au micro de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Nous voulons donner une chance à la paix parce que dans ce pays, on a été trop loin avec les abus. Vous savez qu'il aurait dû y avoir des élections en décembre dernier. Il n'y a pas eu d'élection parce qu'un seul individu est en train de chercher son positionnement. Nous avons eu la patience en cherchant à éviter la mort de nos compatriotes et en allant, en acceptant l'initiative des évêques, d'aller à un dialogue qui allait nous permettre d'atterrir en douceur et d'ouvrir la voie de sortie, une voie de sortie honorable à M. Joseph Kabila. Mais malheureusement, il semble opérer plusieurs manœuvres, notamment celle de débauchage, en allant chercher du menu frétin du rassemblement et d'essayer de les élever et faire croire que le rassemblement est divisé. Le rassemblement n'est pas divisé. Le rassemblement est une force qui a la confiance de nos compatriotes et nous sommes là pour le dire et le démontrer.
Félix Tshisekedi au micro du Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. Au Cameroun, les hôpitaux sont affectés par le mot d'ordre de grève des médecins. Ce mouvement a été partiellement suivi à Yaoundé, la capitale. Morgan Guiriek.
À l'hôpital central de Yaoundé, de nombreux patients sont venus hier se faire consulter. Les infirmières étaient à pied d'œuvre, mais pas les médecins, qui observent une grève de 3 jours. Le syndicat des médecins du Cameroun, le CIMEC, exige de meilleurs salaires. Un médecin camerounais gagne entre 100 000 et 200 000 francs CFA par mois et il n'y a que 2 500 médecins pour plus de 21 millions d'habitants. Le gouvernement a déclaré la grève illégale, mais le CIMEC a maintenu son mot d'ordre. Ce dernier débrayage vient s'ajouter à la grogne sociale qui secoue le pays depuis octobre. Dans les régions anglophones, les enseignants et les avocats, se disant marginalisés, refusent de travailler. Les autorités y ont bloqué l'accès à Internet et procédé à l'arrestation de centaines de personnes.
Conflit au Soudan du Sud, le Japon a entamé le retrait de ses casques bleus du territoire sud-soudanais alors que l'escalade de la violence continue de faire des morts et des déplacés dans le pays. Les précisions de Michel Joseph.
Le contingent japonais de la mission onusienne de maintien de la paix au Soudan du Sud était basé depuis 5 ans à Juba, la capitale. Ses 350 soldats aidaient surtout dans la construction d'infrastructures. Selon Daniel Dickinson, porte-parole de la mission, un premier groupe de 68 casques bleus japonais a quitté Juba lundi et les autres suivront en 2 groupes. Le porte-parole du gouvernement sud-soudanais, Atheni Wek Atheni, s'est félicité de cette décision, affirmant que les autorités sud-soudanaises sont capables de contrôler la situation dans le pays. La violence qui a éclaté en 2013 suite à la décision du président sud-soudanais Salva Kiir de limoger son vice-président Riek Machar continue d'embraser le pays. Un accord de paix conclu en 2015 avait établi Machar dans ses fonctions, mais le conflit entre les deux hommes a conduit à de nouveaux affrontements armés en juillet dernier. Les troupes gouvernementales, comme les rebelles, sont accusées de sanglantes attaques contre les populations civiles. La Grande-Bretagne a qualifié cette situation de génocide. Même l'ONU ne s'est pas encore prononcée à ce sujet.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, jugement aujourd'hui au tribunal correctionnel de Paris en France d'un soldat français des forces spéciales soupçonné d'attouchement sexuel sur deux fillettes franco-burkinabées de 3 et 5 ans en 2015, quand il était en mission au Burkina Faso. Sébastien L., 40 ans aujourd'hui, est aussi poursuivi pour l'enregistrement d'images à caractère pornographique pour avoir filmé les attouchements sur une des fillettes. Il comparaît libre, contrairement aux réquisitions du parquet. L'accusé encourt une peine de 10 ans d'emprisonnement. Au Togo, seulement 16% de la population rurale a accès à l'électricité. Que font les 84% restants face à cette situation? Visite de notre correspondante Kylie Lawson dans deux villages togolais en quête d'énergie électrique.
À 18h, 19h, on se sent déjà dans la nuit. Surtout s'il y a un peu de pluie, déjà à 19h, tu vas croire que c'est minuit.
Kame est un village d'environ 7000 habitants. Il est situé à 120 km au nord de Lomé. Cette localité vit dans l'obscurité car elle n'est pas raccordée au réseau électrique. Togbui Kouvi Afo 2, chef du village de Kame.
Pour voir l'électricité, il faut qu'on parcourt une distance de 30 km environ. Donc, il faut quitter Kame et arriver à Natchaba de voir ce que c'est que l'électricité. Nous avons besoin de l'électricité pour faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est l'ordinateur. Nos élèves, nos enfants, il faut qu'ils viennent à Natchaba ou bien il faut qu'ils viennent en ville pour voir l'ordinateur. Même notre hôpital n'est pas électrifié.
Pour pouvoir étudier, les élèves ont recours à la lampe torche, ce qui ne se fait pas sans difficulté, témoigne Christine Samira, 13 ans, élève en classe de 6e.
Je prends la torche pour apprendre. Et quand j'ai fini d'apprendre, mes yeux me font mal. C'est difficile pour moi pour apprendre.
Le village d'Agbatito sur la nationale numéro 1 était dans la même situation que Kame il y a encore quelques mois. Même avec l'électrification du milieu, plusieurs habitations ne sont pas électrifiées. C'est le cas de la maison de Yaouvi Samega.
Tu dois payer 60 000 avant qu'on te donne le courant. Là que je suis même, non, il n'y a pas l'électricité. À présentement, on est là, dans l'obscurité, pour les élèves d'apprendre des torches, des lampes tempêtes. Mais où qu'on va trouver le pétrole? Jusqu'à 10 km, 11 à 10 km comme ça, avant de trouver pour que les enfants apprennent. On souffre vraiment.
Dans l'élaboration de son rapport 2016 sur les perspectives énergétiques pour les populations pauvres, l'ONG Practical Action a mené des études dans 4 villages du Togo, notamment Kame, Asukoko, Koulmassi et Nandjouar. L'initiative Énergie durable pour tous ne fait pas référence seulement à l'électricité, nous dit Mary Ellen, coordinateur Afrique de l'Ouest de Practical Action.
Quand l'initiative Énergie durable pour tous a été lancée, souvent on le lie seulement à l'accès à l'électricité. Alors que si vous vous mettez à la place de quelqu'un qui vit dans une communauté rurale, ce n'est pas seulement l'accès à l'électricité qui est important en matière d'accès aux services énergétiques. Dans le milieu rural, on a besoin de l'énergie pour la cuisson. On a besoin de l'énergie pour les travaux agricoles, pour la transformation agricole. Donc ce sont l'accès à tous ces services énergétiques, que ce soit l'électricité ou le biomasse. Pour réaliser les objectifs de développement, on a besoin de l'accès aux services énergétiques au milieu rural aussi.
Intitulé « Planification ascendante de l'accès à l'énergie au niveau national », le rapport 2016 de Practical Action montre qu'environ 50% de la population togolaise a accès à l'électricité, mais ce taux n'est que de 16% en milieu rural. Kylie Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Actualité hors d'Afrique pour terminer. Extrême-Orient, le vice-président américain Mike Pence en visite au Japon dans le cadre de la tournée asiatique qu'il a menée auparavant en Corée du Sud. Le numéro 2 américain est à Tokyo pour réaffirmer l'importance de l'alliance militaire entre le Japon et les États-Unis face à la menace nucléaire posée par la Corée du Nord, qui menace désormais de procéder à des tests de missiles chaque semaine. Mike Pence a réitéré l'engagement des États-Unis à assurer la sécurité du Japon conformément à l'alliance militaire qui unit les deux pays. Et pour terminer en France, jour J-5 avant le premier tour de l'élection présidentielle, dont le résultat semble toujours aussi indécis. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.